Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. La ferme des animaux, publié en anglais en 1945 sous le titre Animal Farm, est une courte fable politique de George Orwell, sous l'apparence d'un récit animalier accessible. Le livre suit les habitants d'une ferme qui renverse leur propriétaire afin de mettre fin à l'exploitation et d'organiser une communauté fondée sur l'égalité. Cette promesse initiale se défait pourtant lorsque les cochons concentrent progressivement l'autorité, le savoir et les privilèges. Orwell construit ainsi une satire directement liée à la révolution russe et à la dérive stalinienne, sans réduire son propos à un simple commentaire historique. Le récit examine les mécanismes par lesquels une révolution peut être confisquée, comment le langage politique altère la perception des faits et pourquoi l'absence de contrôle collectif favorise la tyrannie. Sa forme brève, son ironie nette et son intrigue très lisible donnent à cette critique une portée durable. Le livre interroge moins la légitimité du désir d'égalité que la fragilité des institutions et des citoyens chargés de la préserver. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une révolution égalitaire progressivement confisquée par une nouvelle élite. La première force du livre réside dans le contraste entre l'élan collectif de la révolte et son résultat final. Les animaux chassent Monsieur Jones parce qu'ils subissent le travail forcé, la faim et l'arbitraire. Leur projet repose donc sur une revendication compréhensible de dignité, de propriété commune et de participation aux décisions. Orwell ne présente pas le désir de renverser l'oppression comme absurde. Il montre plutôt qu'une aspiration juste ne garantit ni des pratiques justes ni un ordre politique durablement égalitaire. Après la victoire, les cochons s'attribuent des responsabilités particulières au nom de leur capacité intellectuelle. Cette différenciation semble d'abord pratique, puis devient le fondement de privilèges matériels et d'un pouvoir sans contrôle. Napoléon évince son rival Boule de Neige, neutralise les assemblées et transforme l'administration de la ferme en commandement personnel. La trajectoire révèle un mécanisme politique précis lorsqu'un groupe monopolise les décisions, l'information et la définition de l'intérêt commun. Il peut présenter ses avantages comme des nécessités collectives. La fable vise ainsi la révolution russe, où l'émancipation promise a débouché sur un État autoritaire. Mais elle dépasse ce cadre en soulignant qu'aucune cause ne protège automatiquement contre la captation du pouvoir par ceux qui prétendent la servir. Deuxièmement, le langage comme outil de falsification et de gouvernement des esprits, Orwell accorde une place centrale à la manipulation des mots, surtout à travers Brilbabil, le porte-parole des cochons. Son rôle ne consiste pas seulement à convaincre les autres animaux, il modifie le sens des événements pour rendre acceptables des décisions contraires aux idéaux initiaux. Les réductions de rations deviennent des réajustements. Les échecs sont imputés à des saboteurs et les privilèges des dirigeants sont présentés comme indispensables à la sécurité de tous. Cette rhétorique fonctionne parce qu'elle mêle intimidation, simplification et rappel sélectif du passé. Les animaux disposent d'une mémoire incertaine, ne maîtrisent pas tous la lecture et se trouvent épuisés par le travail. Ils peinent donc à confronter le discours officiel à leur expérience. Les commandements inscrits sur le mur sont modifiés à mesure que les cochons transgressent les règles, ce qui matérialise la falsification de la norme elle-même. Le livre montre que le mensonge politique est plus efficace lorsqu'il ne demande pas d'être pleinement cru, il suffit qu'il crée le doute, isole les contradicteurs et rende la vérification difficile. La clarté du style d'Orwell sert précisément cette analyse, en opposant la simplicité des faits à l'opacité du discours officiel. Il avertit que la défense de la liberté dépend aussi de la précision du langage et de la capacité à nommer les abus. Troisièmement, l'ignorance organisée et l'épuisement des travailleurs comme condition de la domination. La domination des cochons ne repose pas uniquement sur la force des chiens ou sur les discours de Babil. Elle s'appuie aussi sur l'inégale capacité des animaux à comprendre, discuter et contrôler les affaires de la ferme. Les cochons conservent pour eux les tâches intellectuelles, tandis que la majorité accomplit le travail physique. Cette séparation produit une dépendance, ceux qui travaillent le plus disposent de moins de temps, d'énergie et d'instruction pour examiner les décisions prises en leur nom. Malabar incarne tragiquement cette logique. Loyal, puissant et prêt à multiplier les efforts, il associe le bien collectif à l'obéissance et à l'augmentation du travail. Sa probité personnelle devient exploitable parce qu'elle n'est pas accompagnée d'outils de jugement autonome. Orwell ne méprise pas les travailleurs. Il montre au contraire comment leur dévouement est trahi par des dirigeants qui transforment le sacrifice en ressources politiques. L'éducation limitée des autres animaux facilite également la réduction de principes complexes à des slogans faciles à répéter. La fable insiste donc sur un enjeu civique concret sans accès partagé au savoir, aux informations et à la délibération, l'égalité proclamée demeure formelle. Le contrôle autoritaire prospère moins grâce à une supériorité naturelle des chefs, que grâce à des inégalités organisées dans l'accès à la mémoire, au langage et aux moyens de contester. Quatrièmement, la peur, le bouc émissaire et la violence qui remplacent le débat collectif après l'éviction de boule de neige. La ferme entre dans une phase où la discussion politique est remplacée par la peur. Napoléon s'appuie sur les chiens qu'il a fait élever à l'écart pour imposer ses décisions et empêcher toute opposition visible. La violence ne sert pas seulement à punir, elle transforme les conditions mêmes dans lesquelles les animaux pensent et parlent. Quand exprimer un doute peut être assimilé à une trahison, chacun apprend à se taire, même lorsqu'il perçoit les contradictions du régime. Boule de neige, absent de la ferme, devient le coupable commode de tous les problèmes. Les difficultés économiques, les accidents et les revers sont attribués à son action supposée. Ce procédé évite aux dirigeants de rendre compte de leurs propres choix et concentre la colère sur un ennemi inaccessible. Orwell décrit ainsi une politique de la menace dans laquelle l'unité n'est plus construite par un projet partagé, mais par la désignation permanente d'un adversaire. Les aveux forcés et les exécutions marquent une rupture décisive avec la révolte initiale, censée abolir la cruauté humaine. La fable souligne qu'un pouvoir sans limite ne se maintient pas seulement en obtenant l'adhésion, mais aussi en créant un climat où la prudence individuelle l'emporte sur la solidarité. La terreur détruit alors les liens nécessaires à toute résistance collective. En dernier lieu, la fin du cycle révolutionnaire est l'effacement de la frontière entre maître et libérateur. La conclusion de la ferme des animaux donne au récit sa portée la plus amère. Les cochons adoptent progressivement les habitudes, les vêtements, le commerce et les manières des humains qu'ils avaient dénoncées. La frontière entre les anciens oppresseurs et les nouveaux dirigeants devient indiscernable aux yeux des autres animaux. Cette image finale ne signifie pas que toute organisation collective est nécessairement vouée à l'échec. Elle montre plutôt que le pouvoir révolutionnaire perd sa raison d'être lorsqu'il cesse d'être limité par les principes qui avaient justifié son accession. Les symboles de l'égalité subsistent parfois, mais leur contenu a été vidé ou inversé. La ferme conserve le vocabulaire de la libération tout en reproduisant l'exploitation, la hiérarchie et la violence qu'elle prétendait abolir. Orwell met en évidence la force des continuités institutionnelles et des intérêts matériels. Changer les dirigeants ou les emblèmes ne suffit pas si les mécanismes de contrôle restent absents. La satire évite également un schéma réconfortant où la vérité triompherait d'elle-même. Les animaux comprennent trop tard l'ampleur de leur dépossession, car leur mémoire a été altérée et leurs possibilités d'action réduites. Cette absence de réparation immédiate rend le livre politiquement exigeant. Il invite à considérer la vigilance, la transparence et la possibilité de révoquer les dirigeants comme des protections concrètes, plutôt que comme de simples principes abstraits. En conclusion, La ferme des animaux s'adresse aux lecteurs qui souhaitent aborder la politique à travers une fiction concise, aux élèves découvrant les régimes totalitaires, ainsi qu'aux lecteurs de 1984 désireux de retrouver Orwell dans une forme plus brève et plus allégorique. Sa lecture apporte un cadre intellectuel utile pour reconnaître plusieurs mécanismes récurrents: confiscation de la décision, culte du chef, réécriture du passé, désignation d'ennemis et exploitation du travail au nom d'un avenir meilleur. Le livre aide aussi à distinguer un idéal d'égalité des appareils qui peuvent s'en réclamer tout en le détruisant. Cette distinction explique sa valeur durable dans les discussions sur la propagande, la responsabilité civique et la concentration du pouvoir. Par rapport à d'autres dystopies ou satires politiques, l'ouvrage se démarque par son économie narrative. Orwell n'a pas besoin d'un univers complexe ni d'une longue démonstration théorique la ferme. Les règles affichées et les comportements de quelques figures suffisent à rendre visibles les transformations d'un régime. La simplicité apparente ne diminue pas la précision historique de l'allégorie de la révolution russe et du stalinisme. Elle permet au contraire de saisir les étapes de la dérive autoritaire. Son style direct, son humour sombre et son refus d'une conclusion consolatrice en font un texte particulièrement accessible, mais non simpliste. C'est une lecture recommandée à quiconque veut comprendre comment les promesses collectives peuvent être trahies lorsque l'information, la mémoire et le pouvoir échappent à ceux au nom desquels ils sont exercés. Si vous souhaitez soutenir George Orwell, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.